Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous venez de reconnaître un extrait de l'extraordinaire enseignement du Christ, tel qu'il figure dans son célèbre sermon sur la montagne. Ces paroles sont remplies d'une autorité que personne n'osait contester. On venait de partout pour le voir et l'entendre. Or, il n'avait que 30 ans. Aujourd'hui, je voudrais découvrir avec vous ce maître qui enseigne. Comment expliquer sa popularité? Comment expliquer les haines qu'il s'attire? À travers les pages de l'Évangile, nous pouvons apprendre à mieux connaître celui qui naquit humblement en Palestine il y a quelque 2000 ans et qui demeurera le personnage le plus considérable de toute l'histoire de l'humanité. Jésus attendit 30 ans avant de se lancer dans un ministère public extraordinaire. Pendant 3 ans environ, il fut prédicateur itinérant. Il pouvait parler aux hommes car il les connaissait pour avoir partagé leur vie. En sa qualité de maître spirituel de tout un peuple, il pouvait affirmer qu'il connaissait bien son auditoire. Il avait affaire avec des gens rudes comme lui, rompus aux travaux manuels. Il savait leurs soucis, leurs luttes de chaque jour, leurs espérances grandes et petites, leurs haines secrètes. Mais par-dessus tout, il les aimait. L'Évangile nous donne maintes preuves de ce sentiment qui animait ce maître incomparable. Sentiment qui motiva toute sa vie. Souvenons-nous qu'un jour, il invita ses disciples à l'accompagner dans un lieu retiré pour se reposer, car ils étaient tous très fatigués. Leur mission les accaparait tellement qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Ces témoignages de compassion de Jésus envers les hommes se multiplient dans les pages de l'Évangile. Il était, il est encore, le bon berger d'un troupeau d'hommes désorientés, déséquilibrés, perdus, aigris, assoiffés de consolation peut-être, de compréhension certainement, de vérité et de bonnes nouvelles. C'est avec cette connaissance de la nature humaine et cet amour réel des hommes que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il est intéressant de noter à quel point sa popularité augmente dans toute la Palestine, provoquant l'admiration, la haine, la repentance, la jalousie, l'amour. Stimulé par les paroles de vie et de vérité qu'il prononce, sa génération sort d'une apathie spirituelle dangereuse. On vient de partout pour l'entendre. Les foules sont frappées par son enseignement. Matthieu nous dit qu'il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Un jour, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue. Il s'agit de Nazareth, où il avait passé toute sa vie. Ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent toutes ces choses? » C'est d'ailleurs à la suite de cette visite à Nazareth que Jésus prononça une phrase qui est virtuellement passée dans le domaine public. « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Alors qu'il enseignait dans la foule, les souverains sacrificateurs, c'est-à-dire les grands prêtres, hauts dignitaires religieux, et les pharisiens, jaloux de ce que Jésus leur ravissait constamment l'attention du peuple, envoyèrent des serviteurs avec l'ordre de s'emparer de lui. Mais ces derniers, paralysés par l'autorité et la grandeur de ce jeune maître, n'osèrent porter la main sur lui. Ils préférèrent affronter la colère de ceux qui les avaient envoyés, en leur avouant humblement que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils devaient se dégager de lui une force irrésistible, une assurance désarmante qui ne permettait pas de douter de la vérité de ses enseignements. Le peuple avait ressenti cette fermeté, cette autorité d'un vrai chef qui sait parfois prendre des mesures autrement énergiques que de simples réprimandes. Qu'on se souvienne de l'épisode des vendeurs chassés du temple. Contrairement aux scribes qui jonglaient avec des détails de la loi, qui la commentaient par miettes, qui s'éternisaient en références et en citations, Jésus leur apportait quelque chose de positif. Sa parole était oui ou non. Il rendait la loi accessible au peuple, et c'est sans doute ce que les chefs ne lui pardonnèrent pas. Sa méthode d'enseignement est claire, simple, directe. On pense naturellement à la fraîcheur, à la simplicité et à la grandeur du sermon sur la montagne. Vous êtes la lumière du monde. Vous devez briller et non pas rester caché afin que les autres puissent s'approcher de Dieu en voyant votre vie saine et droite. Vous êtes le sel de la terre. Il ne faut pas que vous perdiez votre saveur et par là même votre faculté de préservation. Jésus comble ces âmes attentives, impatientes et avides d'assurance, de vérité et d'espoir. Il répond à leurs besoins. Ils sentent tous qu'il les comprend. Comment pouvait-il résister à son appel lorsqu'il leur disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. C'est ce que nous confie l'évangile de Luc. Les publicains étaient en quelque sorte des percepteurs chargés de prélever les impôts et les taxes de toutes sortes imposées par l'envahisseur romain. Ils étaient particulièrement détestés par les Juifs. Ils souffraient sans doute de cette haine que leur portait le peuple. Et on les comptait dans l'auditoire du Christ parce qu'ils ressentaient son amitié, sa compassion, surtout, et sa loyauté. Plus que ses sermons, c'est sans doute son attitude sincère envers eux qui les influençait à se rapprocher de Dieu. L'un d'entre eux ne deviendra-t-il pas plus tard l'apôtre Matthieu? Il n'y avait rien de haineux ni de méprisant dans ce maître qui les enseignait. Ils appréciaient et admiraient en lui son mépris des critiques cinglantes des chefs du peuple, indignés de ce qu'il s'associait avec des gens méprisables. N'avait-il pas osé dire aux bigots de la ville, parmi lesquels se recrutaient souvent les chefs religieux, « Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car eux, ils s'étaient repentis. » Il les bouleverse en renversant leur conception naturelle de la morale. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Cela paraissait normal, logique, inattaquable. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il leur affirme que la colère est parfois aussi condamnable que le meurtre. Il leur déclare que le jugement de Dieu n'attend pas que l'acte soit commis pour se prononcer, mais il frappe déjà la pensée même où germe le mal avant sa naissance. Au reste, il les prévient de ce que la vie serait dure pour ceux qui suivraient fidèlement son enseignement. On vous outragera, on vous persécutera, et on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Mais alors, vous vous réjouirez et vous serez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Jusqu'alors, le Juif avait appris que la richesse et l'opulence étaient autant des signes évidents de la bénédiction et de l'approbation divine récompensant la vertu. Jésus vient avec un message pour le pauvre, pour le dépossédé, pour le miséreux. Il fait sursauter ceux qui pensent pouvoir concilier amour de Dieu et amour de l'argent. « Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, leur dit-il. C'est l'un ou l'autre. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Par ces mots d'une merveilleuse simplicité, c'est vraiment le fond du cœur humain qui est atteint, mis à nu, avec ses passions dévorantes de haine, d'orgueil et de convoitise. Il dénonce aussi l'hypocrisie et l'inutilité des aumônes tapageuses et signées, la vanité des prières interminables. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, leur dit-il, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne priez pas pour être vu des hommes. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La méthode pédagogique du Christ ne se borne pas seulement aux prédications publiques. Il recrute des âmes dans des conversations particulières. Dans le chapitre 4 de l'Évangile selon Jean, il s'entretient avec la femme samaritaine. Lors d'une conversation privée, la nuit, avec un chef religieux nommé Nicodème, il déclare « Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit. » L'Évangile nous rapporte de nombreuses occasions où le maître parle à des particuliers, moins anonymes qu'une foule. Là, il peut traiter un problème bien défini, donner des enseignements qui, 2000 ans après, savent encore remuer les âmes. Face à face avec son message, resterons-nous insensibles, comme si ses paroles ne nous concernaient pas? N'avons-nous pas entendu son appel à l'action? Celui qui entend ses paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Elle finira par s'écrouler. Il dit encore, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est là une vérité que les hommes ont méprisée. Le docteur Alexis Carrel a écrit à cet égard, « Il n'est pas douteux que la réussite de la vie demande le développement intégral de chacune de nos activités physiologiques, intellectuelles, affectives et spirituelles. Or, nous prenons soin de notre être physique et intellectuel, mais nous laissons s'atrophier notre vie spirituelle. Il en résulte un déséquilibre qui conduit à la chute. C'est la maison bâtie sur le sable. Chers amis auditeurs, ne voulez-vous pas construire votre vie et celle de vos enfants sur le roc inébranlable de la parole de Dieu ?